23, fait qu'on va les garder pour le prochain message que moi je vais prêcher le 24 juillet. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ce message. Je te prie vraiment que, tu sais, j'ai prêché à quelques reprises sur ça, Seigneur, puis je ne veux pas me reposer juste sur ce que je comprends. Mais ouvre mon esprit, même alors que je me suis préparé, mais que je n'ai peut-être pas saisi certaines choses. Seigneur, ouvre mon esprit pendant que je parle, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit. Si quelqu'un dit, ah, mais moi, je connais ce texte-là, ben, surprends-nous. Surprends-nous, Seigneur Dieu, que la parole, c'est un puits sans fond, Seigneur Dieu. Tu peux encore nous parler ce matin. Amen. OK, donc on va lire le texte qui nous concerne. C'est au chapitre 2, versets 13 à 22. Si quelqu'un pourrait m'amener de l'eau, j'apprécierais. Merci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parla du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. OK, donc la Pâque était proche. Merci beaucoup. Donc la Pâque était proche. Juste avant de commencer mon message, dans le fond, je vais vous demander de prendre des notes ou de noter des choses durant le message dans le fond, qui répondraient à cette question. Pourquoi ce passage des Écritures est pertinent pour un croyant? OK? Et spécialement quelqu'un qui vient d'arriver à la foi. On dit l'Évangile de Jean, crime, c'est un bon livre pour commencer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous autres, dans le fond, on étudie l'Évangile de Jean ensemble, mais on veut faire quelque chose avec l'Évangile de Jean. On aimerait ça s'en servir pour que les gens qui s'approchent de la foi s'attachent au Seigneur. Donc, on veut essayer de réfléchir en tant qu'Église sur ça, mais ça va être bon. Pourquoi c'est bon pour un croyant? Pourquoi c'est pertinent ce qu'on entend aujourd'hui pour un croyant? Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui arrive à la foi, c'est spécialement bon pour lui? Tantôt, on va arrêter le micro. On va juste faire pause sur l'enregistrement. On va discuter entre nous, puis je vais venir faire une conclusion comme la semaine passée. Mais la parole va être à vous. C'est vous qui allez faire ma conclusion. Donc, la Pâque des Juifs était proche. La Pâque est mentionnée 4 fois dans les Évangiles. Donc, on sait que le ministère, là, la vie publique de Jésus a duré à peu près 3 ans et demi. Parce qu'on sait qu'il y a eu 4 Pâques. Dans l'Évangile de Jean, il y en a 3. Et c'est un des festivals qui commémore, on sait, la délivrance du peuple juif en esclavage en Égypte. Donc, on se rappelle que, dans le fond, il y avait une nuit, puis la nuit où ils devaient sortir, ils ont dû, je vais peut-être trouver ma petite manette pour les PowerPoints. Benoît, tu l'as-tu? Donc, on peut aller à la prochaine acétate en attendant. Donc, on avait une instruction, on peut faire apparaître l'image. Donc, il y avait du sang d'un agneau qui était appliqué sur les cadrages d'une porte de la maison. Et même parmi les Juifs ou les non-Juifs, tous ceux qui avaient entendu ou qui n'avaient pas entendu, donc ceux qui l'avaient entendu puis qui l'avaient négligé, ou ceux qui l'avaient. Peut-être qu'il y en avait des non-Juifs qui ont entendu ça là, parmi les Égyptiens, puis ils ont probablement dit hey, faut faire quelque chose. Eh bien, l'agneau, le sang de l'agneau servait à racheter le premier-né. Racheter dans le sens où c'est l'agneau qui avait été sacrifié à la place du premier-né. Puis là, l'ange de la mort était pour passer. On se rappelle de cette histoire-là. et passer par-dessus. Puis en anglais, ils ont le mot Passover, qui est encore mieux qu'en français, là, mais c'est l'ange qui passe par-dessus ou le jugement qui passe par-dessus. Et ceux qui avaient négligé d'appliquer ce sang-là, ben, il y avait un deuil dans leur maison parce que la personne, un de leurs enfants, celui qui était le premier parmi les leurs, eh ben, il était décédé cette nuit-là. Et ça rappelait le meurtre de tous les enfants. T'sais, on tuait tous les enfants qui, quand ils naissaient, les peuples juifs, hein, il s'était passé quelque chose avec Moïse, là. Mais si on revient un petit peu dans cette histoire-là, dans le fond, ça a été comme le dernier coup pour dire, ben OK, on va vous laisser aller, là, t'sais, regarde, partez donc, là, t'sais. Fait qu'il y avait le pharaon qui était en deuil de son premier-né, puis tous les autres Égyptiens. Ça, on retrouve ça, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 12 et spécialement dans les versets 14 et 15 de ce chapitre-là. Et donc, à chaque année, il y a trois festivals qu'on doit venir se déplacer si on reste en Israël. Et là, Jérusalem est remplie de centaines de milliers de personnes, voire presque des millions de personnes qui sont là pour venir célébrer la Pâque. Et donc, Jésus, c'est à ce moment-là qu'il descend de son patelin de la Galilée pour aller à Jérusalem, selon sa coutume. Et là, il va rentrer dans le temple et il va trouver dans le temple, dans le fond, qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Ben, il trouve le mot temple. Ici, c'est pas juste la place où il y avait les sacrifices. Il y avait une grande enceinte autour. Je pense que j'ai une image de ça. Ben, c'était le temple et le parvis du temple, on va le voir. Je vois juste aller à l'image plus loin ici. Dans le fond, vous avez un cadre rouge ici, là. Donc, ce n'était pas juste le lieu qui était le lieu du sacrifice, mais il y avait le lieu très saint, le lieu saint, et ici, on appelait ça le parvis des gentils. Et en grec, le mot c'est hieron, et ça veut dire le temple et tout son entourage. Et là, Jésus rentre à cet endroit-là, puis c'est un endroit où tout le monde peut être là. Les femmes peuvent être là, les non-juifs peuvent être là, les juifs peuvent être là. Donc, il rentre dans cette place-là qui est le parvis. Et ce temple-là était appelé le temple d'Hérode. Puis, dans l'histoire, il y avait eu le temple de Salomon. Il avait été détruit en 539 avant Jésus-Christ, puis il avait été reconstruit avec Zorobabel plusieurs années plus tard, puis il a été rénové par Hérode. Puis un jour, il va y avoir un troisième temple, puis ça va se passer dans le millénium. Okay? Et il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans cette histoire-là, qu'il faut comprendre qu'on est dans un deuxième temple, mais qu'il y a un temple à venir et le Messie ou le Sauveur, quand il va venir, il va se passer quelque chose avec ce temple-là aussi, okay? Pour qu'on comprenne bien les actions de ça. Donc, c'est les premières activités publiques de Jésus. Il a fait son miracle à Cana la semaine passée, puis il l'a fait en cachette, puis c'était en Galilée, puis là, il va faire une apparition publique. Puis donc, ça va marquer un peu le début de ses activités publiques. Puis, cet événement-là est rapporté au début par Jean. Puis quand tu lis Matthieu, Marc et Luc, ça se passe une semaine avant sa crucifixion. Donc, certains commentateurs disent que Jean a voulu le ramener là tout simplement parce que ça servait. Mais ça pourrait très bien être deux choses, deux événements, parce qu'il est cité, puis de la façon qu'il est cité quand il passe à son procès sur les paroles qu'il a dites cette journée-là, les gens ne s'entendent pas tout à fait pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Fait que ça pourrait être très bien deux événements. Puis, dans le fond, la première fois qu'il l'a fait, probablement que tu sais, les tables ont été vidées de change à terre, les animaux ont sorti du temple, puis tout ça, puis là, les vendeurs ont tous été chassés. Mais le lendemain, ils ont tout revenu, puis sont probablement tous réinstallés. Pourquoi? Ben parce que Jésus, c'est qui ce gars-là, tu sais? Par contre, dans la dernière semaine avant sa crucifixion, c'est pour Matthieu, Marc et Luc, c'est l'événement qui fait que, regarde, là, il a dépassé les bornes. Pour Jean, non. Dans l'évangile de Jean, ce qui fait que Jésus a dépassé les bornes, c'est quoi? C'est la résurrection de Lazare. On voit que pour Jean, c'est ça. Par contre, dans toutes les situations, ce renversement des tables, ce chassage des vendeurs, ça a été quelque chose qui a amorcé quelque chose. Mais pour Jean, c'est ce qui a mis la goutte là, qui a débordé, c'est quand il a ressuscité Lazare, là, les Juifs ont dit là, il faut arrêter ça là, parce que les gens vont croire en lui. On lit littéralement au chapitre 12. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans le temple? Ils trouvent dans le temple deux types de personnes, des vendeurs d'animaux, puis des changeurs qui changent la monnaie. Puis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander aux vendeurs de pigeons, puis à ceux qui ont le bétail, il va juste les chasser, mais aux vendeurs de pigeons, il va dire, sortez-moi ça de ça, parce que dans le fond, ben, il faut partir à voler, là, les pigeons sont dans des cages, fait que sortez-moi ça d'ici. Il a chassé le bétail. Puis le ton que Jésus utilise, c'est un ton de jugement. Durant ses apparitions publiques, Jésus, c'est pas rare qu'il a été dur envers la nation juive, le peuple juif, surtout le leadership ou encore le temple. Par exemple, à un moment donné, il allait à Jérusalem, puis il y avait un figuier, puis il a dit que le figuier, il rapportait pas de fruits, puis il le maudit à son retour. Il est allé à Jérusalem, puis au retour, il a maudit le figuier, puis le figuier, il a séché. Puis le figuier, dans l'image de l'Ancien Testament, c'est toujours associé au peuple d'Israël. Et Jésus était venu chercher, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'attendaient pas vraiment. Et l'image du temple là, nous montre qu'il n'était vraiment pas attendu. Hein? Puis le ton du jugement, tu sais, il dit au figuier sèche, et le figuier sèche sur place. Puis ailleurs, il va dire l'armée romaine, votre ville va être envahie par l'armée romaine. Puis ils vont creuser des trachées autour de vous, puis ils vont vous détruire. Dans Matthieu 24, 2, c'est quelque chose qui s'est accompli en 70 ans. Donc, une quarantaine d'années plus tard, après, ben, le Seigneur utilisait des fois des paroles dures envers Jérusalem ou le temple. Puis il dit, le temple, il ne restera pas une pierre sur pierre qui ne sera pas renversée de ce temple. Jésus a une réaction, premièrement, contre les activités du temple qui sont orientées vers le commerce. Et soit il remplace, soit il souille l'adoration, on va en parler un petit peu. Puis il leur reproche d'avoir fait de cette place-là, le temple, un lieu pour trafiquer, un lieu pour vendre, pour faire des échanges commerciaux. Puis il faut se rappeler de Jérémie, le prophète, qui, dans le premier temple, le temple de Salomon, avait dit ceci. Dieu avait dit ceci au travers le prophète Jérémie. Il avait dit, quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison dans laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même. Dit l'Éternel. Ah, au temps du temple de Salomon, il se passait quelque chose. On adorait Dieu, mais on adorait aussi d'autres dieux. On volait, on trichait, on commettait l'adultère, mais on venait se délivrer de nos obligations en venant à la maison de l'Éternel. On disait, on t'a offert un sacrifice, on a fait ce que tu voulais, maintenant, on peut faire les autres choses aussi. Et on voyait que même au temps de Jérémie, Dieu, ce qu'il voulait, c'était leur cœur, pas juste une pratique une fois par semaine, puis une vie n'importe comment le reste du temps, ou une fois par semaine, ou à un certain moment quand on avait offensé Dieu, il fallait offrir des sacrifices. Tu sais. Donc, déjà, on voyait un problème, se donner une bonne conscience en faisant quelque chose qui est extérieur, mais que le cœur n'y est pas dans la chose. Dieu dit par le prophète Jérémie, je le vois, puis ça ne me plaît pas. Il les avertit, hein? Puis là, dans le texte qu'on voit, c'est Dieu fait chair qui rentre dans son temple, puis qui dit, j'aime pas ça, qu'est-ce que je vois ici? Et dans Marc, c'est vraiment appelé une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, c'est une maison de trafic, mais on le voit dans Marc que Jésus, il dit que c'est une caverne de voleurs. Donc, une place pour aller se cacher, finalement. Une place pour ne pas se faire prendre. M'en va au temple, je ne vais pas me faire prendre. C'est une caverne, c'est une place où les méchants se font pas reprendre. Fait que c'était une hypocrisie installée. On retrouvait là des gens de la pire espèce. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des habits religieux pour se cacher à faire le mal. Donc, le mal fait sous l'apparence du bien, c'est souvent un mal qui est, on va dire, un mal habillé en habit. Ben là, il y avait quelque chose qui se passait là, puis on va regarder qu'est-ce qui se passait. Personne ne les exposait ou ne les reprenait. Et Jésus, lui, il va changer la donne, il va changer les choses, lui, il va venir dire les choses. Et alors que j'étudiais ce message-là, je ne pouvais pas passer à côté des 7 lettres aux 7 églises de l'apôtre Jean, qui a été aussi écrit de la part du Seigneur pour dire, il y a l'Église visible, mais parmi l'Église visible, il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas bien dans toute l'ère de l'Église. Puis Jésus qui parle à son Église, puis qui interpelle son Église pour des choses qu'elle a besoin de corriger aussi. Donc, il le fait aussi dans l'Église. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire le lien, puisqu'on avait le même auteur de l'Apocalypse de Jean. Donc, le temple avait un parvis qui s'appelait le parvis des gentils. Et le désir de Dieu, puis encore une fois, ça aussi, ça m'a touché beaucoup, c'était un parvis pour les nations. Ça veut dire que n'importe qui, de n'importe quelle nationalité, pouvait venir là, et ça devait être un lieu qui favorise le recueillement, et ça devait être un lieu où les gens qui cherchent Dieu puissent le trouver aussi. Et Salomon, quand il avait construit le premier temple, il avait prié le Seigneur, il avait dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand et ta main est forte et ton bras est étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je t'ai bâtie. C'est quelque chose, hein? Puis c'est pour ça, dans Marc, c'est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Donc, le désir de Dieu, c'est que la place qui était derrière ce mur-là, qui est un mur de 2 mètres de haut, donc à peu près 6 pieds, ma grandeur, un petit peu plus grand que 6 pieds, mais c'était écrit sur passe pas sinon tu tues, hein? Mais ça, c'est pas Dieu qui a écrit ça, là. Mais les Juifs du temps de Jésus avaient écrit des pancartes partout, c'était écrit si tu passes puis t'es pas juif, on va te tuer. Hein? C'était la place aussi où dans Luc 18, le gars il se trappe sa poitrine puis il dit hey, je suis un pauvre pécheur, là, tu sais, parce que lui, il ne pouvait pas rentrer, c'était un publicain, fait qu'il restait avec les gentils. Tu sais. Fait que c'était vraiment une place où Dieu voulait se laisser trouver. Puis on voit que moralement, dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, Dieu veut se laisser trouver. Hein? Ce quiconque frappe, Dieu lui ouvre. Tu sais. Et donc, autant. Donc, excusez, ce lieu-là, c'était un lieu où Dieu faisait habiter son nom. Le temple d'Israël, c'était l'endroit où sa gloire résidait. Mais là, depuis Jean 1, on voit qu'il est venu plein de gloire. Le Fils de Dieu est venu plein de gloire. C'était Jésus qui était l'habitation de la gloire de Dieu. C'était lui qui était le temple vivant, si on peut dire. Mais là, en Israël, c'était là que quand on priait au nom du Dieu d'Israël, si Dieu répondait à nos prières, on se disait, le Dieu d'Israël, il n'est pas comme les autres dieux. Lui, il répond à nos prières. Puis là, on avait le goût de connaître un petit peu plus ce Dieu-là, le Dieu qui s'était révélé au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait? Puis le texte dit littéralement, s'ils viennent d'un pays étranger, crime, faites-leur de la place. Je veux dire, faites-leur de la place, là. Il y a une place là pour qu'ils puissent venir prier, là. T'sais. Mais qu'est-ce que les autres ils ont fait? Ils sont arrivés avec leur brimbal de commerce, puis ils ont mis tout ça là. C'était la seule place où les non-juifs pouvaient aller prier. Puis là, c'était rendu du commerce. Les gens qui vendaient peut-être de l'artisanat, je ne sais pas qu'est-ce qui se vendait d'autre que ça, mais il y avait certainement la vente d'animaux, puis du transfert d'argent qui se passait là. Donc, les animaux qu'on vendait là rendaient un service à ceux qui venaient offrir des sacrifices. Donc, ils arrivaient de loin. Ils pouvaient acheter, mais pour pouvoir acheter, il fallait qu'ils transfèrent l'argent. On en parle tantôt. Mais ça rendait un service. Mais le problème, c'est que ça prenait à la place d'un lieu qui aurait dû favoriser la recherche de Dieu, le recueillement. Au mieux, c'était d'avoir négligé les non-juifs. Au pire, c'était de leur empêcher le chemin. C'était de leur mettre une entrave pour qu'ils soient. Tu sais, en voulant dire, hey, non, Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Tu sais. C'est pas le Dieu des autres nations. Dans l'histoire des Juifs, avant cette histoire-là, la vente des animaux pour les sacrifices se faisait dans la vallée de Cédron, au pied du mont des Oliviers. Un lecteur qui a juste lu un peu l'Ancien Testament, s'il est attentif un petit peu, va trouver des versets que quand le Messie va venir, il va faire quelque chose avec le temple. Dans Malachie 3, il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ici, c'est probablement Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Et voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, une prophétie de Malachie que le messager va venir, il va rentrer dans son temple, il va venir chez les siens. Hein? Mais ce qu'il voit là, dans la prophétie qui s'accomplit, c'est qu'il n'aime pas ce qu'il voit. Et donc, il ne veut pas de marchands dans sa maison. Et il agit comme quelqu'un qui est maître de sa maison. Vous partez en voyage, quelqu'un prend votre maison, vous revenez, il y a une verge dans la cuisine. Vous faites quoi? Vous sortez la vache, puis peut-être le gars qui a loué la maison aussi, parce que là, il va falloir réparer tout ce que les sabots vont en briser, puis ramasser les tas d'un coin, puis c'est pas des tas de furets, là. Vous nettoyez, vous faites de la place. Vous faites la place, vous essayez d'en mettre ça comme c'était supposé d'être à sa vocation originale, puis vous êtes peut-être choqué, puis ça pourrait peut-être pas être un péché d'être choqué. C'est ce que vous allez faire avec votre colère qui va faire si votre colère va être mauvaise. Mais il rentre dans son temple, il n'aime pas qu'on a changé la vertu du parvis des gentils, et puis il y a d'autres choses qu'il n'aime pas, on va en parler tout à l'heure. Il agit comme quelqu'un qui est maître sur sa maison et il va chasser les vendeurs d'animaux, il va renverser les tables des changeurs et ça reflète bien le portrait de la future maison du Seigneur qu'on retrouve dans le prophète Zacharie. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Et Jésus était venu pour être accueilli par les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Fait que là, il va avoir un temple plus tard, parce que là, c'est pas prêt. Le peuple d'Israël n'est pas prêt à le recevoir. Fait qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une période de temps qui se trouve, qui est la période de l'Église, puisque son peuple n'a pas voulu le recevoir. Dieu s'est tourné vers les non-juifs pour bâtir son Église, mais il va revenir, puis il va avoir encore un temple avec des sacrifices d'animaux pendant le millénium. Et ça va être des sacrifices. Puis le texte continue dans Zacharie en disant, ils m'offriront des sacrifices de justice. Avant, dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices sanglants pour être en bonne relation avec Dieu et reconnaître que mon péché méritait une punition. On va le faire encore, mais ça va être le peuple juif qui va le faire en Israël. Mais cette fois, non pas pour parler d'un sacrifice à venir, mais pour parler d'un sacrifice qui s'est passé dans le passé. Donc, le peuple juif va recommencer, ils vont continuer où ce qu'ils ont arrêté. Ils vont offrir des sacrifices de justice cette fois-là. Un mois avant la Pâque, à chaque année, c'était le temps de recueillir la taxe du temple. Chaque mâle de 20 ans et plus devait donner un demi-shekel d'argent. Et cette taxe-là, autant que d'acheter des animaux pour faire le sacrifice, par exemple, le père, à chaque famille devait avoir un agneau pour sa famille et la famille, les frères et sœurs, puis les parents, tout ça, devait avoir un agneau qu'il sacrifiait la veille de la Pâque. Puis il y avait les autres sacrifices, là, les pigeons pour les pauvres, il y avait différents sacrifices. Donc, c'est la taxe qu'on devait payer, mais aussi l'achat de ces animaux-là. Elle devait pas être, tu ne pouvais pas la payer avec n'importe quel argent. Et l'argent qui avait la face d'un empereur ou tout ça, tu ne pouvais pas acheter ça avec ça. Il fallait que tu l'achètes avec le stater de tir ou ce qu'on appelle le tétradrachme. Il n'y avait pas la face d'une personne dessus, puis c'était accepté, puis c'était riche en contenu d'argent aussi. D'ailleurs, quand Jésus a demandé à, je pense que c'était à Pierre, de pêcher un poisson pour payer les impôts, c'était un stataire qui avait pêché. Donc, on est là. Il y a l'étape des changeurs qui sont là. Tu arrives pour t'acheter l'animal, l'agneau, peu importe. Non, attends, faut que tu payes avec de l'argent qui n'a pas d'effigie d'un empereur, donc le tétrabrache. Là, tu allais à la table de change, tu te faisais faire changer ton argent. Et plus encore que d'obstruer le lieu de prière pour les autres nations, on profitait d'eux autres pour leur vendre des animaux qui étaient hors de prix avec une seule argent qui était permise au temple. On l'appelait la monnaie du temple. Et donc, c'était possible pour toi d'amener, tu sais, ton propre pigeon ou ton agneau. Tu sais, quand tu t'en vas en camping, des fois, tu dis, le bois de camping, le bois de chauffage va me coûter cher. Ou, tu sais, fait que, tu sais, tu remplis ta roulotte de bois de chauffage. Puis, mais avec le prix du gaz, te coûte cher la bûche, pareil. Mais ma fille, elle s'en va C'est où est-ce qu'elle s'en va? Au Nunavik, mais quelque part, une petite ville, là. Puis là, elle a le droit d'avoir 38 kilos, tu sais. Fait que là, on est tout en train de diviser. Ça vaut combien, là, parce qu'elle paye 8 piastres du kilo pour tout ce qui dépasse. Fait que là, elle essaie de voir qu'est-ce qui va coûter cher là-bas. Puis, tu sais, ben, en Israël, c'est un peu la même affaire. Tu pensais, tu dis, garde, je vais amener ma brebis, je vais amener mon pigeon, puis je me ferai pas avoir, tu sais. Sauf que, il y avait quelque chose qui se passait là, dans le fond. C'est que si le prêtre, il examinait ta brebis, puis qu'elle était supposée être sans tache, puis il trouvait un défaut corporel quelconque, ben, toi, tu la ramenais pas. Tu pouvais pas ramener ça. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait? Il t'en vendait une autre, puis lui, probablement qu'il la repassait dans les prochaines brebis qu'il allait te vendre, là. Il y avait un bazar, on appelait ça le bazar des fils d'Anne. En fait, le grand prêtre, c'était Anne, puis ses fils étaient trésoriers et son beau-fils, Caïphe, était assistant trésorier. Et l'historien Joseph disait que Anne s'accaparait l'argent des prêtres avec violence. Donc, c'est un historien juif non chrétien du premier siècle qui révèle qu'il y avait un bazar qui était là. Les pharisiens l'appelaient le bazar des fils de Anne. On te refusait ton animal, on t'en vendait un autre, tu devais aller changer ton argent pour un taux d'exorbitant de change, tu te faisais avoir là, puis tu te faisais avoir parce que l'animal que tu avais amené, de toute façon, il ne pouvait pas l'accepter. Il y avait du vol qui se passait là. Puis c'est pour ça qu'il l'appelle une caverne de voleurs. Au nom de faire le bien, quand je dis c'est le mal seul sous la pire espèce, c'est parce que la personne, elle, quand elle vient offrir son sacrifice, celle-là, elle veut plaire à Dieu. T'sais. Elle veut être en règle avec le Dieu d'Israël. Fait qu'elle, tu sais, elle est la plus sincère que tu peux avoir. Puis toi, tu lui dis, ton sacrifice n'est pas bon. Tu y remplaces sa brebis par une autre brebis. Tu y fais faire du profit. Tu fais du profit sur son taux de change. Tu y vends un animal à prix exorbitant, puis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec son agneau? Tu y rachètes pour rien. Hein? Mauvais, dit l'acheteur, il s'en va, il se félicite. Fait que c'est le mal sous sa pire espèce, parce qu'au nom de vouloir plaire à Dieu, on profitait. Quelqu'un a même déjà sorti un terme là-dessus, de la simonie, utiliser les choses de Dieu pour faire des sous. Et ça déplaît au Seigneur. Puis le Seigneur a dit, il y a des gens ici qui ne se font pas reprendre, puis devraient se faire reprendre sérieusement. Et là, le texte continue, on continue dans notre texte. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. En d'autres termes, le zèle que j'ai pour ta maison sera la cause de ma destruction. Donc, j'ai dépassé les bornes aux yeux des hommes religieux. Je vais en payer le prix. Donc, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Ses disciples se souvinrent. À deux reprises dans le texte, les disciples se souvinrent. Pensez à ce que Jésus avait fait dans le temps. Les années ont passé. Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Pensez à ça. Il pense au psaume 69, 9. Le zèle que j'ai pour ta maison me dévore ou va me détruire. Donc, c'est vrai que c'est un des événements qui a amené à sa crucifixion. Les disciples, pendant tout le ministère ou la vie publique de Jésus, se sont grattés à la tête et ont dit, pourquoi il a fait ça? Après, quand il a été crucifié, ils ont dit, ça l'a mené là. Ça l'a mené là. Le zèle qu'il a démontré pour la maison du Seigneur, ça l'a mené à sa destruction. Ils ont pensé, plus tard, ça est revenu. Mais les non-juifs, pas les non-juifs, mais les non-disciples, ceux à qui Jésus n'avait pas tout révélé, mais les autres, ils se sont rendus jusqu'au tribunal, puis ils l'ont accusé dans Marc 6, 17. Hein, ils l'ont accusé sur les choses qui se sont passées cette journée-là. Ah non, c'est une autre affaire. Je voulais essayer d'attirer votre attention sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est allé voir Hérode, puis il a dit la femme que tu veux marier, c'est ta belle-sœur, tu ne peux pas, c'est pas bien là, de faire ça. Hérodias, elle n'a pas aimé entendre dire que ce n'était pas bien ce mariage-là, fait qu'elle a demandé à faire couper sa tête. Donc, Marc 6, 17, c'est ça le verset. Donc, Jésus, un peu comme Jean-Baptiste, en renversant les tables et en bousculant l'ordre établi, il a attiré des bosses sur lui. Il est venu montrer qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas et ça ne lui a attiré que de la haine. On a étudié dernièrement le thème dans l'Évangile de Jean, le thème de l'opposition dans l'Évangile de Jean. Puis on a montré que Jésus, lui, est venu. Puis en tant que lumière, il est venu mettre en lumière l'amour du Père, il est venu mettre en lumière aussi qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et ça l'a suscité de l'opposition contre sa personne. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour dire hey, « moi, je suis contre vous autres, je suis venu pour juger. » Non, il est venu pour aimer, sauver, mais il est venu nous dire aussi que ça n'allait pas bien. Mais ça l'a fait susciter une opposition qui s'est levée puis qui a mené à sa crucifixion. Les Juifs prennent la parole puis ils disent « quel miracle nous montes-tu pour agir de la sorte? » Et ici, le mot « juif », c'est intéressant. Ce n'est pas les vendeurs, ce n'est pas les éleveurs là, qui vendaient ou ceux qui étaient à table de change. Quand tu vois les Juifs au pluriel, les mots qui sont utilisés ici dans les évangiles, ça parle du leadership juif, donc les gens en direction. Ils lui demandent, c'est quoi que tu fais comme miracle? Puis le mot qui est utilisé, c'est le mot signe. Puis on a vu la semaine passée que dans l'évangile de Jean, il y a 7 signes. Cana, les noces de Cana, c'est un signe qui s'est accompli. Ça, c'est le deuxième signe que Jésus va faire. Puis un signe, c'est le mot semeion, et ça veut dire quelque chose qui démontre qu'un messager il est authentique, qu'il a été envoyé par Dieu, ou qu'un événement prophétique est en train de s'accomplir. Par exemple, Jésus va dire, lorsqu'il y aura augmentation des catastrophes naturelles comme les épidémies, les tremblements de terre, puis que les nations se lèveront en guerre les unes contre les autres, bien, ce ne sera pas encore la fin. Mais ça va être un signe. Ça va être un signe de ce que je suis en train de vous prophétiser ou vous annoncer d'avance. Un prophète, pour voir s'il était vraiment confirmé par Dieu, on devait demander en Israël, on devait demander c'est quel signe qui montre que ce que tu me dis là, ça va s'accomplir. Et donc, il y avait un double accomplissement prophétique. Il y avait toujours un accomplissement qui se passait durant la vie du prophète. Puis quelque chose qui se passait dans un futur plus lointain. Jésus dit qu'il est, c'est sa maison, bien d'abord prouve-nous que c'est ta maison. C'est un peu ça que les Juifs disent. Et ce n'est pas mauvais nécessairement de demander un signe pour être sûr de ne pas croire un charlatan. Donc, ils vont demander un signe et Jésus va leur donner un signe qu'il va produire pour prouver en fait qu'il est vraiment le Seigneur du Temple, puis il a le droit de faire le ménage dans son temple. Et c'est le deuxième signe qui est annoncé par Jean. Mais en passant, un signe, ce n'est pas obligé d'être un miracle. C'est juste quelque chose qui symbolise ou qui atteste que ce que tu me dis, c'est Dieu qui l'a dit. Bien, il vient de le faire. Le seul qui a le droit ou qui devrait pouvoir comme faire du ménage comme ça, renverser les tables puis tout, bien, c'est le maître de la maison. Et là, il vient de leur offrir un signe, celui d'être le maître de la maison. Mais eux autres, ils disent, ah, bien là, tu viens de faire ça, mais prouve-nous que tu es bien celui qui devrait faire ce signe-là. Fait qu'il va leur en donner un autre. Le texte dit, Jésus répondit, « Bien, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Encore une fois, ils se souvinrent qu'il avait dit cela. C'est la première fois quand que je lis l'Évangile de Jean, si j'ai jamais lu ma Bible avant, que je trouve un langage énigmatique à propos de la crucifixion. Le temple, c'est plus le temple, c'est son corps. Donc là, en tant que lecteur, il faut que je m'arrête un petit peu, puis je réfléchisse. OK, ce n'est pas le temple que je vois en arrière, là, de qui Jésus est en train de parler, il est en train de parler de son corps. Mais même pour les disciples, il a fallu attendre encore 3 ans et demi, voir que ce qu'il avait fait avec attirer des bosses, il s'est fait crucifier, que le troisième jour, il est ressuscité. Ah, OK, détruisez ce temple le troisième jour. Un, deux, trois, ben oui. Il est ressuscité le troisième jour. Et là, le texte dit, et ils eurent la foi. Jean, il aime ça, parler de la foi. Quand les disciples ils ont vu le miracle à Cana, ils ont dit, les disciples ont cru. Après ça, Nathaniel, Jésus, il dit, hey, je t'ai vu en dessous du figuier. Et quand, parce que tu m'as dit, je t'ai vu en dessous du figuier, tu as cru, ben, tu vas voir des bien plus grandes choses. T'sais. Fait que Jean, il parle souvent de la foi. Ils eurent la foi. Ils comprirent. Ils ont eu la foi. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean, il est écrit pour que celui qui la lit finissent par placer sa foi lui aussi. Ça, ce sont les témoins visuels du Seigneur qui ont placé leur foi. Maintenant, moi, je le lis, je ne suis pas un témoin visuel, mais les témoins visuels, eux autres, qui ont placé leur foi et sont dignes de confiance. Alors, moi aussi, je vais ajouter ma foi. Les autres ont resté dans l'énigme, ceux qui n'ont jamais compris ce qui s'est passé, et c'était des paroles qui ont été reprises là, dans Marc 14, 58, puis dans Matthieu 26, 61, des paroles qui sont reprises. Ah ouais, il dit qu'il peut détruire ce temple-là, puis que il va reconstruire un temple, mais ce n'est pas un vrai temple. Tu sais, ils se mêlent dans leurs histoires un peu, là. Fait qu'ils ont resté perplexes par rapport à ça. Dans les autres évangiles, le langage énigmatique est utilisé pour parler de Jonas. Vous aurez le miracle de Jonas. Encore une fois, un homme qui est enfermé dans le ventre d'un poisson 3 jours, puis le troisième jour, il est restitué par le poisson pour dire que Jésus, lui aussi, il va mourir, il va être enterré, puis le troisième jour, il va ressusciter. Détruisez ce temple, c'est la façon que c'est écrit, c'est un défi. Je vais vous faire une preuve, mais vous commencez par faire quelque chose. Détruisez le temple. Détruisez-le, puis moi, je vais le reconstruire en 3 jours. Fait que c'est comme un défi. Faites-le. Mais les autres ne sont pas prêts à lever un petit doigt, mais ils sont capables de détruire beaucoup. Puis ça, Jésus sait qu'ils sont capables de détruire. Fait qu'il leur offre la possibilité de détruire quelque chose, puis que lui va le reconstruire. Fait que la réponse des Juifs, hein, c'est, ben, garde, ça a pris 46 ans à construire, mais en fait, le temple avait été construit par Zorobabel. Il avait été rénové pendant 18 mois, en 20 ans avant Jésus-Christ, environ, entre la 20e puis la 19e année, par Hérode. Puis, parce qu'on lui disait, ah, toi, t'es même pas un vrai juif, puis tout, fait que ça l'avait comme un peu excité, là, fait qu'il avait dit, ben, garde, pour leur montrer, moi, que j'aime le temple, puis que tu sais. Fait qu'il avait donné un gros coup 20 ans avant Jésus-Christ. Puis, depuis 46 ans, ça avait été fait, mais c'est à la voie aoriste, ça veut dire que c'est une action qui est arrivée dans le passé, et c'est à la voie passive, ça veut dire que c'est encore en train de se faire. Ça veut dire que le temple là, où ce qu'il y avait les sacrifices, la partie plus centrale, avait été rénové beaucoup par Hérode. Mais tout le reste, le parvis des gentils, puis toutes les autres pièces là, qui est autour, là, ben, ça fait 46 ans que c'est en train d'être fait. Puis les historiens disent que ça s'est terminé en l'an 64, donc 6 ans avant la destruction, là. Donc ça a duré là, super longtemps, cette reconstruction-là. Donc, ce que ça a pris énormément de temps que ça a été fait, puis qu'on est toujours en train de le construire. Toi, tu dis que on va le détruire en 3 jours. Tu vas le détruire, on va le détruire, puis que toi, tu vas prendre 3 jours pour relever tout ça. Fait que, au niveau de la construction, ça tient du miracle, mais le lecteur est amené à poser la réflexion suivante. Est-ce que ça se fait rebâtir une bâtisse que ça fait plus que 46 ans qu'ils sont en train de construire? Ou est-ce que ça se fait de ressusciter un mort? Puis dans les deux cas, c'est un miracle pour les deux. C'est un miracle pour les deux. Alors, Jésus sait qu'ils sont capables de détruire, fait qu'il leur offre un défi. Regarde, détruisez-moi, dans le fond, ce qu'ils ne comprennent pas. Puis lui, il va ressusciter le troisième jour. À deux reprises, on a dit qu'ils se souvinrent. Premièrement, quand il y a eu un zèle, il a réalisé que c'est ça qui a provoqué sa crucifixion. Deuxièmement, ils ont réfléchi sur le fait que son corps serait détruit par eux, mais que le troisième jour, il ressusciterait. Dans le texte, ce n'est pas écrit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit les a aidés. Ça dit juste qu'après les événements, c'est plus tard, après qu'il a été ressuscité, donc après qu'il y a eu la mort et les trois jours ensevelis et la résurrection, là, ils ont réfléchi. Par contre, il n'y a aucun autre évangéliste qui va consacrer trois chapitres de son évangile pour parler du Saint-Esprit, pour expliquer qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris puis qu'ils vont y comprendre plus tard. Puis il y a le chapitre 14, 15 puis 16 de l'évangile de Jean qui sont consacrés à la venue du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit revient après les événements. Il dit, tu sais, là, quand j'ai dit que je détruirais le temple, ben, c'était de la crucifixion. Ah, rappelles-tu? Rappelle-toi le psaume 69. Le zèle que j'ai pour ta maison me dévore. Ben, c'est de ça que je parlais. Je parlais que j'avais dit des choses, puis ils se sont levés contre moi à cause de ça. Alors que j'arrive à la fin de mon message, préparez-vous pour me dire qu'est-ce que vous pensez qu'une personne, comment un chrétien peut appliquer cet enseignement-là, puis encore plus quelqu'un qui vient d'arriver à la foi, puis qui lit l'Évangile, peut-être c'est le premier livre qu'il va lire de sa vie. Le temple, je finis avec ceci, le temple c'était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre, c'était l'endroit où il avait fait reposer sa gloire. Hein? Mais là, Jean, mieux que les autres évangélistes, il nous annonce qu'il va y avoir un déménagement de la gloire de Dieu. La gloire va quitter ce temple-là pour aller dans un autre temple. Puis ce n'est pas un temple fait de main d'homme. Et que Jésus est un temple vivant, littéralement, que c'est lui qui est rempli de la gloire de Dieu. Hein? Et que ce n'est plus au travers d'une tente le tabernacle, ou un temple, le lieu très saint, qu'on va approcher Dieu avec un sacrifice, mais que maintenant, on va approcher Dieu le Père par le sacrifice qui est Jésus, puis que c'est par sa personne qu'on peut avoir un intermédiaire. Donc, la médiation d'une communion avec Dieu ne passera plus par un temple. On n'a plus besoin d'aller en Israël en tant que non-juif pour aller s'asseoir dans le parvis des gentils pour prier le Dieu d'Israël. On peut le prier en esprit et en vérité ici à Davidville. Et ça, c'est nouveau là, en Israël, ce concept-là. Puis Jean, il va le dire dans l'histoire de la Samaritaine au puits, vous rappelez de l'histoire, la femme a dit, c'est-tu sur le mont Gérazim qu'il faut adorer le Dieu? Ou bien non, il faut adorer Dieu à Jérusalem, sur la montagne à Jérusalem. Et Jésus va répondre, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Et là, Jésus, par l'apôtre Jean, qui nous amène cet évangile-là, on réalise que le temple, ce n'est plus le temple d'Israël, le temple, c'est la personne de notre Seigneur Jésus, et que par ce sacrifice-là, on peut avoir accès au Père. Le lecteur commence, il ne peut pas tout saisir ça tout de suite. Nous autres, on l'entend encore aujourd'hui vous dire, c'est plus un temple, c'est plus un lieu, c'est une personne. OK. Et c'est pour ça que souvent, nous autres, les chrétiens, on va dire, c'est pas une religion, c'est une relation. Même si Dieu nous demande, par contre, de se rassembler en tant qu'Église, puis qu'il va appeler dans les Épîtres, l'Église est appelée la maison du Seigneur, on comprend assez vite que ce n'est pas la bâtisse, c'est que chacun de nous faisons les pierres vivantes et que rassemblés ensemble, on compose un rassemblement spirituel qui honore le Seigneur. Puis il y a des anciens, il y a des diacres, toutes sortes de structures dans le Nouveau Testament. Mais qu'on ne s'approche pas d'une bâtisse pour s'approcher du Seigneur, hein? Ni d'une religion, entre guillemets, juste organisée. Mais on est des pierres vivantes, puis on compose, nous, l'édifice spirituel. Ça, c'est plus tard, quand la personne va comprendre plus le Nouveau Testament. J'ai fini. Fait que, dans le fond, la dernière chose que je voulais parler, c'est justement de la Samaritaine. Donc, lui va continuer à lire l'Évangile de Jean, puis il va s'apercevoir que Dieu se cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Là, ils viennent d'entendre que tranquillement, il a entendu la croix, il a entendu que Jésus serait crucifié. Donc, il y a des semences qui sont placées dans la tête du lecteur. On va faire pause sur l'enregistrement, mais on va continuer l'enregistrement. On a entendu des bonnes choses. J'ai entendu. C'est une belle histoire pour parler de la Pâque parce que les gens sont ici au Québec, ils connaissent le lapin et le chocolat. Mais de les amener à la Pâque juive, un bon tremplin pour l'Évangile. J'ai entendu aussi que Jésus a rendu ça facile de s'approcher de lui parce qu'on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. On peut simplement venir à lui. J'ai entendu aussi que Dieu était ouvert à toutes les nations, même le parvis des gentils démontre que Dieu n'était pas juste le Dieu des Juifs, mais il voulait notre Dieu aussi. Donc, ça peut interpeller une personne qui est non-juive, comme nous autres à David. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, OK. Moi, j'ai aussi, j'avais noté, il est initié à la Pâque juive et à la nécessité d'un sacrifice. C'est la première fois dans l'Évangile de Jean qu'on voit qu'il va y avoir un sacrifice, puis on entend parler de la Pâque. J'avais écrit aussi, il comprend que Dieu s'intéresse à un changement de cœur et non à une vie chrétienne de surface. Il rentre dans sa maison, puis il dit, hey, c'est quoi cette affaire-là, là, de le mal qui se passe dans ma maison? Jésus, il ne veut pas juste des gens qui font une vie chrétienne ou une vie spirituelle en surface, mais il veut que tu vas être changé là, à t'approcher de lui. Fait que ça montre déjà à la personne qui est interpellée à devenir son disciple que Jésus se soucie aussi de son intérieur, pas juste de ses pratiques religieuses. Il est interpellé aussi, le lecteur, par le fait que Dieu aime se laisser chercher au moyen de la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Ah, Salomon qui avait dit, hey Seigneur, fais que les prières qui vont être faites ici, là, ben, soient entendues pour que les gens croient que tu es le seul vrai Dieu. T'sais. Il comprend que Dieu veut aussi attirer ceux qui ne sont pas encore de sa maison à lui par la prière. Ça veut dire, je peux parler à ma belle-sœur Ginette et dire, hey Ginette, on prie-tu Dieu ensemble pour ta situation? Pour qu'après, Ginette a dit, crime. Ça marche, ta patente. C'est qu'elle soit convaincue. Donc, ça devient un outil extrêmement puissant pour l'évangélisation. Puis, ça n'a pas eu besoin d'être en Israël, dans le parvis des gentils, c'est ici. Parce que le parvis est ici. Je l'ai accepté, le parvis du Seigneur. Viens-t'en, on va prier ensemble. Donc, la personne, elle va être encouragée à prier, même avec les non-croyants, pour qu'ils puissent comprendre que Dieu répond aux prières. L'amour pour un péché peut créer une hostilité contre Dieu quand Dieu le dénonce. Ça veut dire ça que si la lumière vient dans mes ténèbres, ça se pourrait que mes ténèbres ne veulent pas ça. Fait que ça aussi, ça va m'aider quand je vais voir une force en dedans de moi qui réagit. Le lecteur peut retrouver pour la première fois la vérité de la croix. Il ne comprend pas tout à fait pourquoi Jésus doit mourir, pourquoi il doit ressusciter, mais il commence à avoir une pensée dans sa tête que ça va arriver. Maintenant, pourquoi il faut que ça arrive? Ça suscite son intérêt. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient pour qu'ils comprennent les Écritures. Ah, ils se souviennent, etc., etc. Puis la maison de Dieu, maintenant, ce n'est plus un lieu physique. C'est ici la maison de Dieu. Dieu a fait son habitation en moi aussi. Amen. Je ne prends pas plus du temps parce que je veux que tu nous partages sur la scène. Justement, on vient de parler de la croix, fait qu'on t'ouvre le terrain. Puis on va finir avec ça. Puis